Voilà, chers amis, mais je vous invite avant d'aller plus loin à prier, mais peut-être juste de mentionner une nouvelle fois que c'est maintenant où les enfants, vous êtes invités de vous lever du canapé et d'aller dans une autre pièce avec votre écran et vous cliquez. Je pense que les parents, vous voyez cela aussi. Il y a un lien plus bas et vous cliquez là-dessus et ça donne suite donc à un enseignement pour les enfants. Plus tard dans la semaine, on encourage aussi les parents d'enseigner les enfants et nous avons aussi mis à votre disposition une autre leçon que vous pouvez imprimer avec quelques mots d'instruction de comment animer cet enseignement. Et donc ça, c'est pour vous, mais peut-être de faire ça cet après-midi, ce soir ou à un autre moment qui vous convient dans la semaine. Alors essayons, chers amis, d'être maintenant à l'écoute de notre Dieu dans ce texte que nous avons lu. Nous allons prier dans un instant. Si vous êtes comme moi, vous êtes facilement à la fois en train d'écouter, aussi en train d'avoir un autre écran en main, un téléphone ou quoi que ce soit d'autre, je vous encourage à éteindre toute autre chose et concentrer pendant un petit moment, même si vous êtes en pyjama. Vous imaginez prêcher à des gens qui sont en pyjama, c'est bizarre, chers amis, mais il se peut que ça arrive. Ça, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Et donc, même en pyjama, si c'est votre cas, j'espère que ce n'est pas votre cas, vous pouvez rester concentré pour comprendre ce que Dieu nous dit. Donc, je vous invite à la prière. Et puis, on va voir de temps à autre le texte ici, à côté, pour nous aider à concentrer ce que tu nous dis donc à sa parole. Donc, prions ensemble, si vous voulez bien. Oui, merci Seigneur que ta parole est lumière, que par ton esprit, tu nous vivifies. Et nous te demandons donc d'être à l'œuvre maintenant, là où nous sommes. Nous voyons à quel point c'est une période particulière que nous vivons. Et nous te demandons donc de nous aider à comprendre ta volonté et à agir en conséquence. Sois avec nous par ton esprit, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec un témoignage de quelqu'un frappé par un autre fléau qui arrivait à son pays il y a quelques années d'ici. Cet homme s'appelle Joel Ollier, c'est un chrétien australien et qui, en 2013, a perdu sa maison dans un feu de brousse. Il y en avait encore cet été, ou cet hiver pour nous, en Australie. Donc, nous savons que c'est aussi quelque chose d'assez dramatique pour des personnes à vivre. Et lorsqu'il était en pleine douleur et désolation, il a écrit ceci. En tant qu'être humain, brisé et faible, je suis constamment confronté à la tentation de chercher mon identité et mon but dans les soucis passagers de ce monde. Ceux d'entre nous qui ont perdu tous leurs biens matériels se retrouvent maintenant avec une crise d'identité. Une crise d'identité béante, parce que leur façade de sécurité s'est écroulée devant leurs yeux et ils réalisent que ce qu'ils ont si souvent considéré comme permanent n'était rien de plus qu'un écran de fumée. Pour moi, cela a été une expérience si profonde que je suis parvenu à mieux comprendre ce que Jésus disait quand il nous a donné le commandement d'amour, d'amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas les détruire et où le feu n'a aucun pouvoir. Lorsque nos trésors sont placés en toute sécurité dans l'éternité, quelle emprise les distractions passagères de ce monde peuvent-elles avoir sur nous? Au lieu de cela, nous serons libres de vivre la vie pour laquelle nous avons été conçus, avoir une relation profonde et authentique avec les gens qui nous entourent, agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher avec notre Dieu en toute humilité. Fin de citation. Et donc ce matin, coincés comme nous le sommes chez nous, c'est l'occasion pour nous de nous focaliser sur l'essentiel. L'apôtre Paul, lui, a connu aussi un moment dans sa vie qui le permettait de remettre en question tout ce qu'il connaissait. Au verset 17 donc, de notre texte, nous voyons qu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et du coup, un changement profond a eu lieu. Et cela aussi pour l'apôtre Paul lui-même. Il s'agissait, si vous voulez, d'une crise de sa conversion. À ce moment-là, tout a changé pour lui. Avant ce moment-là, Paul avait connu le Christ, comme il le dit au verset 16, selon la chair. Christ, c'est-à-dire pour lui, à ce moment-là, n'était rien qu'un homme. Un homme d'ailleurs qui terminait sa vie de manière honteuse, sur une croix, faible, méprisée. Dire que cet homme était le Messie, le roi choisi par Dieu, était un scandale pour l'apôtre Paul. Pas pour l'apôtre Paul, pour Saul, comme il était avant de devenir l'apôtre. Ben, un scandale à un point que, par zèle pour Dieu, Paul cherchait à mettre à mort ceux qui se disaient « croyons en Christ ». Mais ensuite venait sa propre conversion, et cela a tout changé pour lui. Fin du verset 16, il dit « maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière ». Bien sûr que non, car pour lui, Christ est devenu ce qu'il est vraiment. Cela change la direction de sa vie. Verset 15 dit que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'était vrai pour Paul, et cela doit être vrai pour tout chrétien encore aujourd'hui. Par la foi, un changement fondamental a eu lieu dans le cœur des croyants. Même si, ce qui est fort évident dans notre contexte actuel, nous continuons à vivre dans le même corps terrestre, susceptible à la faiblesse, à la mort, à la tentation. J'ai lu d'ailleurs un article cette semaine qui disait que le taux de divorce en Chine a augmenté depuis l'imposition de la quarantaine. C'est triste, n'est-ce pas, d'entendre ça, mais dans un sens, c'est prévisible. Mettre deux personnes en confinement pendant un long moment, ça devient difficile. Et donc, si vous regardez maintenant cette émission en live avec votre conjoint, j'aimerais que vous jetez un regard vers elle ou vers lui, comme ça, ok? Et vous vous rappelez de votre engagement envers elle ou envers lui, peu importe les difficultés dans le couple. Pourquoi? Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ce que nous voyons donc dans ce passage, c'est à quel point ce changement dicte à la fois l'approche de l'apôtre Paul dans son ministère et aussi l'annonce du message au centre de son ministère. Et donc, nous allons traiter ces deux points. D'abord, l'approche du ministère chrétien. Et au verset 16, nous voyons qu'il dit que « dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, selon, si vous voulez, les critères de ce monde-ci ». Cela pourrait nous sembler une expression bizarre de connaître personne selon la chair, car dans un sens, nous connaissons les autres, justement, à travers notre contact terrestre de ce monde. Nous croisons, mais peut-être pas pour le moment, des gens à l'école, au travail, dans notre cercle familial. Nous faisons des distinctions lorsqu'on entend leur accent. Peut-être vous faites ça maintenant, lorsqu'on voit leur sexe, lorsqu'on voit l'importance ou le statut d'une personne dans la société, et ainsi de suite. Pour Paul, avant sa conversion, la question aussi arrière-plan religieux était super important. Était-il juif ou était-il païen? Mais ces questions-là deviennent pour Paul, et doivent donc devenir également pour nous, secondaires. car la question capitale, c'est la question de la réconciliation avec Dieu. Pour Paul, cela prime au-dessous de tout. Et donc, du coup, il a un regard différent sur les autres. Car l'humanité, selon Paul, se divise en deux catégories. Ceux qui sont, verset 17, en Christ, et donc une nouvelle création, et ceux qui ne le sont pas. Mais Paul avait également des motivations puissantes pour agir de cette manière. Verset 11, « Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » La crainte comme une motivation n'est pas toujours une mauvaise chose, chers amis. La crainte du coronavirus nous pousse à prendre des mesures très fortes pour le moment. J'ai toujours du mal à comprendre à quel point notre mode de vie, juste dans 10 jours, a changé complètement en si peu de temps. La crainte, là, est justifiée. Il nous semble par les faits. Et cette crainte nous pousse à convaincre d'autres également, à prendre les mêmes précautions, de prendre le danger au sérieux. Et au verset 10, ici, de notre texte, Paul avait, on ne le voit pas sur l'écran, Paul parlait d'apparaître devant le tribunal de Christ. Donc, le jugement est en vue dans son esprit lorsqu'il écrit le verset 11. Il sait que tous doivent apparaître devant le Seigneur. Les croyants en Christ doivent apparaître pour une évaluation de leur travail. C'était le sujet de la fois dernière. Et les non-croyants doivent faire face au jugement de Dieu pour leurs actes, pour leurs pensées, pour leurs paroles. Cette réalité sobre pousse donc l'apôtre à chercher à convaincre les hommes. Mais en même temps, qu'il est motivé par la crainte, ce respect profond du Seigneur, il est également, voyons-nous au verset 14, motivé par l'amour. L'amour du Christ, verset 14, nous presse, il dit. Oui, la bonne nouvelle que nous prêchons, c'est que celui qui est notre juge, le Christ, est celui qui nous aime, car il s'est donné pour nous à la croix. Un seul est mort pour tous, il dit, qu'il soit homme, femme, juif ou non-juif, peu importe. Et, dit Paul aux Corinthiens, parce que son ministère, c'est de chercher à convaincre d'autres à venir à Christ, sa méthode aussi ne se préoccupe pas des apparences. Verset 12, il y avait ceux, il dit, qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Si vous avez suivi la lettre jusque-là, vous allez reconnaître ici le reproche de ceux à Corinthe qui critiquaient Paul et son ministère. Rappelons-nous que les soi-disant super-apôtres sont arrivés récemment à Corinthe lorsque Paul écrit cette lettre. Il s'agissait, eux, des orateurs impressionnants. Ils mettaient un accent sur des apparences, sur l'éloquence, sur des manifestations puissantes qui impressionnaient les Corinthiens. Et du coup, ils méprisaient l'apôtre Paul. Lui, avec ses souffrances, avec ses faiblesses, avec sa façon trop simpliste de parler de Jésus-Christ. Tout cela, nous le savons, car Paul en parle plus tard dans les chapitres 10, 11 de cette lettre. Et son approche, donc, dans le ministère, à l'opposé de ceux qui sont concernés par l'apparence ou par la face des choses, ce qui est de l'extérieur, non, son approche, c'est de viser le cœur. Ce qui signifie qu'il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rien que cela, le message de Christ, nous l'avons déjà vu, a la puissance de transformer le cœur, d'effectuer cette œuvre de nouvelle création dont il est question dans ce passage. Apporter donc ce message dans un contexte d'opposition et de persécution comme Paul il le fait, c'est dur, Cela implique de la souffrance, cela implique de la persévérance aussi. Nous portons, nous l'avons lu au chapitre 4, ce trésor dans des vases de terre. La gloire revient à Dieu dans ce travail et non pas à nous. Et c'est ainsi, je pense, qu'il dit au verset 12 que si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Hors de sens, il me semble, c'est difficile ici à comprendre ce qu'il veut dire, mais il me semble que c'est dans le sens où il est prêt à subir, Paul, des souffrances terribles afin d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Il a même été lapidé à un moment donné dans son ministère. Lorsqu'il continue qu'il est de bon sens, c'est pour vous, c'est pour des Corinthiens. C'est-à-dire lorsqu'il prêche, lorsqu'il exhorte, lorsqu'il encourage, c'est pour leur édification dans le message de Jésus-Christ. Et il y a bien sûr de quoi apprendre pour nous de cette approche. Car le mode de défaut pour nous, c'est de mettre notre confort avant tout, de ne pas être concerné par le destin éternel des uns et des autres. En tant que disciple de Jésus-Christ, ministre de la bonne nouvelle de Christ, donnons-nous un prix de nous-mêmes pour que le plus grand nombre puisse entendre le message de la réconciliation. C'était frappant, je pense, cette semaine d'entendre parler des médecins, des infirmiers retraités qui ont repris le travail afin d'aider dans les services dans nos hôpitaux. Quel bel exemple, c'est très bien. Mais sur une échelle encore plus grande, le croyant en Christ se donne de lui-même pour que d'autres entendent le message de la réconciliation. Le danger de notre confinement actuel, chers amis, c'est de renforcer le sentiment que ce qui compte pour finir, c'est moi et mon foyer, moi et ma famille. Oui, c'est vrai, si j'habite en ville, je peux saluer les voisins à 20h pour applaudir à la fenêtre. Peut-être que vous avez fait cela aussi. Mais sinon, mon monde est très privé. C'est rien que moi et ma famille. Et dans un sens, même l'applaudissement à 20h m'a rappelé, moi, à quel point, même après plusieurs années dans le même quartier, nous ne connaissons pas bien ce qui nous entoure. Sommes-nous peinés de ne pas avoir pu jusque-là partager notre espérance chrétienne avec d'autres qui nous entourent? Que cette période-ci, chers amis, soit une occasion de remettre certaines approches de notre propre ministère en question. Donc, l'approche du ministère chrétien. Et pour le temps qui nous reste, voyons l'annonce d'un ministre chrétien. L'annonce d'un ministre chrétien. Quelle est notre annonce? Fin du verset 20. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un appel à tous, sans distinction, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre nationalité, peu importe nos œuvres bonnes ou mauvaises dans la vie jusque-là. C'est un appel aux non-croyants d'être réconcilié avec Dieu. Mais c'est aussi un appel aux croyants, aux chrétiens, de persévérer dans cette foi qui proclame la réconciliation. Nous en parlerons un peu plus sur cet aspect-là la semaine prochaine, car pour continuer avec une application au début du chapitre 6 pour les croyants. Mais trois choses donc à remarquer par rapport à cette annonce d'un ministre chrétien. Première chose, c'est le message de la réconciliation. Qui parle réconciliation parle de relations personnelles. Voici ce que le message chrétien nous donne, une relation restaurée avec Dieu, avec le seul Dieu créateur de notre monde. Moi, je pense en ce moment à une famille voisine chez nous dont le mari travaille à Dubaï pour un projet, et sa femme travaille, elle, à Namur. Ils ont deux enfants. C'est une famille très sympa. On a un bon contact avec eux. Et le mari, Fred, revient, bien entendu, presque tous les mois pour revoir sa famille pendant cette période où il est engagé dans ce projet à Dubaï. Mais pour le moment, toute entrée et sortie à Dubaï est interdite. Et donc, il est bloqué là-bas. Et sa femme, Martine, elle reste seule avec les enfants chez elle. Ils hâtent, bien sûr, le jour où ils se reverront, surtout dans ce contexte-ci où il y avait tant d'inquiétude. Ce jour-là où, quand les retrouvailles auront lieu, ce serait un super jour pour leur famille. La relation à ce moment-là restaurée. Le message de réconciliation que prêche l'Église de Jésus-Christ permet une relation restaurée avec Dieu. Pour Fred et Martine, c'est simplement une question de distance physique qui les sépare. Mais pour l'homme, par rapport à Dieu, c'est nos fautes, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et pourtant, la réconciliation est possible même pour cela. Oui, nous le verrons dans un instant, le message chrétien permet ce qu'on appelle la justification. Le fait d'être déclaré juste par Dieu, malgré notre injustice. On y arrive dans un instant. Mais c'est important ici de voir que la justification permet la réconciliation. Si la justification nous dit que nous sommes justes aux yeux de Dieu, ce qui est vrai, la réconciliation nous rassure que nous sommes en paix avec Dieu, que Dieu nous aime, qu'il peut y avoir une relation de confiance entre Dieu et nous. Et dans ces jours d'inquiétude, dans ces jours d'humiliation par rapport à nos limites en tant qu'humanité, il n'y a rien de mieux de pouvoir proclamer un message qui dit que le Dieu qui est là, le Dieu peut-être que nous avons négligé, le Dieu devant qui tout acte, toute parole, toute pensée est connue, ce Dieu a fait les démarches nécessaires pour que nous soyons réconciliés avec lui. Soyez réconciliés, dit le message. C'est le passif, ce verbe-là. Ce n'est pas que c'est nous qui accomplissons la réconciliation. Non, notre rôle, ce n'est rien que de nous approprier de ce que Dieu a fait. Alors, petite illustration pour ceci. Si mes enfants m'avaient dit cette semaine que notre provider de 3G ou de 4G pour nos smartphones ont décidé de faire un geste d'enlever les limites de 4G qu'ils avaient sur leur téléphone pour qu'ils puissent encore utiliser plus, moi je ne l'aurais pas cru. Parce que je serais réticent de payer le prix si cela n'était pas vrai. Mais que notre provider même, pour nous c'est vous, nous a contactés pour dire que c'est le cas, alors là je peux agir en conséquence, parce que c'est fiable. C'est eux qui disent qu'ils enlèvent des limites. C'est un beau geste apprécié pour le moment. Alors de même ici que celui qui prend le devant dans la réconciliation, c'est Dieu. Verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Verset 19, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. C'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui effectue la réconciliation. C'est ça ce qui rend cette réconciliation tellement bonne, tellement fiable. Donc, le premier point, c'est le message de la réconciliation, mais le deuxième point ici, sur ce que nous annonçons en tant que ministre chrétien, c'est le messager de la réconciliation. Car fin du verset 19, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Oui, le moyen par lequel un pays communique à un autre pays, c'est via son ambassadeur. Si les Belges veulent comprendre le positionnement des États-Unis sur tel ou tel point, ils font appel à l'ambassadeur. Il s'appelle actuellement Ronald Gidwitz, l'ambassadeur américain en Belgique. Et c'est les ministres de Christ, les croyants en Christ, qui proclament le message de Christ, qui exercent la fonction d'ambassadeur de Christ. Nous vous en supplions, verset 20, au nom de Christ, Dieu nous envoie pour annoncer ce que Dieu a fait. Donc ce n'est pas nous qui effectuons la réconciliation. Ce n'est pas que nous cherchons non plus à forcer la réconciliation. Non, nous annonçons la réconciliation effectuée par Christ. C'est bien cela le rôle de l'Église de Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons d'avoir cette tâche. À un moment pareil, nous annonçons quelque chose d'inattendu, quelque chose de bon, quelque chose qui changera fondamentalement la vie de tous ceux qui accueillent ce message de réconciliation. Que le Dieu devant qui nous rendrons nos comptes nous donne lui-même le seul moyen d'être réconciliés avec lui. Alors comment est-ce qu'il le fait? Et voici donc la dernière chose à remarquer sur ce point. Le Messie, le Christ qui effectue la réconciliation. Verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est lui dont parle le verset 21, un verset tellement important pour comprendre la portée de ce que ce Christ Jésus, il a fait. Celui, dit le verset 21, qui n'a point connu le péché. Alors ça c'est Jésus, n'est-ce pas? Le Christ qui n'a pas connu le péché. Nous, bien sûr, nous avons connu le péché. Verset 19 a déjà parlé de nos offenses à nous. Donc celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait. Donc c'est Dieu l'a fait. Il a fait quoi? Il a fait devenir péché pour nous. Dieu a considéré Christ comme pécheur, car Christ avait été donné, lorsqu'il est mort sur la croix, comme un sacrifice pour le péché. Il a pris sur lui la punition de la part de Dieu que nos péchés ont mérité. Est-ce que vous voyez cela? Christ n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Et donc nos péchés à nous n'ont pas été imputés à nous. Il ne chargeait pas les hommes de leur faute, il chargeait Christ avec leur faute. Et pour échange, que recevons-nous? Deuxième partie du verset 21, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a, voyez-vous, donc un échange ici dans ce verset. Avant l'échange, il y a Christ d'un côté avec sa justice, il y a nous de notre côté avec notre péché. Ça c'est comme nous le sommes, sans entendre parler de la bonne nouvelle de Christ. Mais d'abord, par le message de la réconciliation, il y a l'échange de nos péchés, de nous vers Christ. Et ensuite, il y a l'échange de la justice de Christ. Sa justice imputée, chargée sur notre compte. Nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, lorsqu'un homme pécheur place sa confiance en Christ, il reçoit la justice de Christ et Christ devient péché pour lui. Vous voyez comment donc la réconciliation est effectuée entre l'homme et Dieu, entre vous et Dieu, si vous vous tournez à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela pousse le chrétien à annoncer le message de réconciliation. nous n'annonçons pas, vous voyez, des rites religieux à suivre pour avoir une bonne relation avec Dieu. Tel ou tel sacrement que je dois prendre, tel ou tel nombre de fois que je dois assister au culte de l'Église pour être en bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas ça l'annonce du message chrétien. Nous n'annonçons pas non plus qu'il faut faire une certaine quantité de bonnes choses, de mérites que nous devons amasser dans notre sac d'œuvres de justice. Ce n'est pas ça ce que nous annonçons comme message. Nous n'annonçons pas non plus qu'il faut passer par des expériences mystiques, spirituelles, extatiques, afin de ressentir une relation proche avec Dieu. Ce n'est pas ça notre message. Nous annonçons le message de la réconciliation qui vient de Dieu et qui ne dépend pas de nos efforts humains, qu'ils soient religieux, qu'ils soient simplement des œuvres bonnes, qu'ils soient des expériences spirituelles. Et cela pousse le chrétien donc à annoncer le message, non pas comme un fardeau, mais avec joie. Nous chanterons d'ici quelques instants, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi pas sans son, il efface ma dette, mon péché, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé de son amour. Et donc, j'aimerais terminer, chers amis, maintenant, juste avec deux mots. Un mot d'abord pour vous, les amis qui regardent cette émission, et pour qui l'Église ou la foi chrétienne n'est pas encore une relation rétablie avec Dieu grâce à la réconciliation effectuée par Jésus-Christ. Le mot est simple, chers amis, pour vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Si dans la providence de Dieu, il se sert de ce virus pour vous réveiller à des questions de mort et de vie de Dieu, de notre faiblesse, notre péché, devant un Dieu saint du jugement à venir, il faut saisir cette occasion, chers amis. Il faut vous tourner vers lui. C'est simple. Approchez-vous de Jésus-Christ par la foi. Et un mot alors pour ceux qui connaissent cette réconciliation. Dès maintenant, nous a dit l'apôtre Paul au verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Non, soyons persuadés que le plus grand besoin pour nos concitoyens, pour nos proches, pour nos voisins, ce n'est pas l'antidote de ce virus, aussi important qu'il soit dans le contexte actuel. Non, le plus grand besoin, c'est la réconciliation avec Dieu. Possible car notre Dieu en Christ, lui, au lieu de s'isoler dans sa gloire en lui, a pris sur lui-même le péché, notre maladie la plus sérieuse, afin de nous donner la vie. Notre rôle, c'est de continuer à soutenir, à encourager, à annoncer la réconciliation avec notre Dieu effectuée par Christ, motivé, oui, par la crainte du Seigneur et l'amour de Jésus. Tout autre ministère, chers frères et sœurs, qui attire l'attention sur nous, qui nous flatte en nous faisant croire que nous pouvons contribuer nous-mêmes à notre salut, que ce soit par des rites, par nos œuvres, par nos expériences impressionnantes. Tout cela est inutile. Selon la chair, cela enlève de la gloire de Dieu en Christ. Moi, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous te louons pour la réconciliation que nous pouvons trouver avec toi en Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donne-nous de croire cela, donne-nous d'annoncer cela, avec confiance, avec reconnaissance, avec humilité. Que tu sois à l'œuvre pour ta gloire, nous te prions. Amen.